Salut les amis et bienvenue dans votre club foot spécial. Le Club AC vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous, supporters ciel et marine. Et cette semaine, on se penche sur la réalité. Le AC est-il vraiment revenu dans la course à la montée? Et le coronavirus aura-t-il vraiment un impact sur les prochains mois de compétition et sur la santé aussi? Les questions que vous vous posez, nos consultants sont là pour y répondre dans un passionnant Club AC numéro 22 qui démarre maintenant.
Le club foot sur Tendance Ouest.
Avec pour ce club hack, et on est ravis de le retrouver parmi nous, c'est notre spécialiste ciel et marine. Salut Cyril Capron.
Salut Sylvain, salut à tous.
Salut à toi Pierre-Charles Binet, Tendance
Salut
Ouest.
Sylvain, bonjour à tous.
Et salut à toi, le doc est avec nous. Frédéric Pain sera en notre compagnie en cette fin d'émission pour vous aiguiller, amis sportifs et amis footeux et supporters du hack, sur les conduites à tenir et surtout sur les prochaines semaines et ce fameux coronavirus. Salut Fred.
Bonjour à tous.
Bon messieurs, on va commencer par le terrain d'abord et on va commencer avec vous, Cyril Capron. Encore une fois, Tino Kadewere a sauvé le hack face à Auxerre.
Encore une fois, effectivement, heureusement qu'il est là. De toute façon, c'est simple, hein, quand Tino est là, le hack marque, le hack gagne parfois, souvent. Quand Tino n'est pas là, le hack ne gagne pas. Après sa blessure face à Lens, Tino Kadewere a manqué 4 matchs, le hack n'en a pas gagné un seul. Il est revenu à Châteauroux, il a marqué au bout de 3 minutes. Il a été encore décisif face à Auxerre. Il faudra un très grand Tino Kadewere jusqu'à la fin de la saison pour espérer accrocher une place de barragiste.
Alors vous l'avez vu, vendredi soir après cette victoire à Vraise, le buteur zimbabwéen, mais comme d'habitude, il est extrêmement modeste à votre micro.
Mais moi je pense que c'est pas ça. Je suis là pour aider l'équipe, donc je suis très content parce qu'on a gagné le dernier match. L'objectif c'est pour chercher la Ligue 1. Donc ça marche bien maintenant, mais on reste concentré parce qu'il y a beaucoup de matchs qui restent. C'était un moment difficile après le match contre Lens parce que j'étais blessé pour 3 semaines. Mais je travaille bien avec Olivier pour revenir avec l'équipe. Donc ça marche très bien, mais c'est pas fini. On reste concentré pour travailler bien aussi pour finir la saison bien.
Le club foot sur Tendance Ouest.
Pierre-Charles Binet, on l'évoquait durant toute son absence, on avait noté le gros fléchissement dans les prestations et dans les résultats des Havrais. Cette fois, depuis son retour, on en a la confirmation.
Eh bien oui, bien sûr, puisque le Havre, cette saison, c'est 38 buts marqués. Il y en a déjà 20 pour Tino Kadewere dans une valeur un peu moindre, il y a Jamal Thiaré qui en a mis 8. Donc forcément, quand ton attaquant qui marque 20 buts sur tes 38 buts est là, c'est beaucoup plus simple de gagner des matchs.
Ça gagne des matchs, Cyril Capron, ça regagne peut-être, allez, j'ai pas envie de dire au meilleur moment parce qu'on le dit très souvent avec le Havre dans une saison, mais celui-là quand même à 10 journées de la fin, il est important ce moment.
Il était essentiel et surtout le HAC a gagné sans livrer un grand match, hein, contrairement à ce qu'a pu dire Paul Le Guen dans sa conf d'après-match. Moi, je me suis pas régalé du tout en voyant ce HAC Auxerre. J'ai trouvé que dans l'animation offensive, dans le contenu, le HAC est capable de beaucoup mieux. Mais quand vous avez un joueur de cette trempe-là capable de faire basculer quasiment à lui tout seul une rencontre, je pense que par rapport aussi à ses coéquipiers, ils savent qu'avec Tino sur le terrain, le HAC est capable de marquer un peu à n'importe quel moment. Donc le HAC a été patient, le HAC a été rigoureux défensivement et le HAC a su attendre son heure et prendre les 3 points, je le redis, sans faire dans le génie, loin de là. Et juste une toute petite parenthèse qui me semble importante, mais vous avez vu les progrès que Tino il a fait en français.
Ah ben c'est clair, hein. Mais c'est clair, il mettait pas un mot derrière l'autre en début de saison et là il parle vraiment de manière tout à fait correcte. Et pour ne mentir à personne et y compris surtout à nos auditeurs, j'ai fait très peu de montage dans ce qu'il a dit, hein.
Et pour moi c'est le signe d'une intégration parfaitement réussie, la volonté du joueur, de l'homme, vraiment de s'impliquer, de s'imprégner, de se fondre dans ce collectif. Tous les joueurs ne se donnent pas cette peine-là, hein.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire, et il y en a un qui l'a remarqué, c'est Paul Le Guen, on en parle tout de suite.
Le club foot sur Tendance Ouest.
Le coach du Havre qui est passé également à votre micro, Cyril Capron, vendredi soir après la victoire face au Havre. Et justement, tiens, il a commencé par parler de qui ? Évidemment, de Tino Kadewere.
Ce qui est remarquable, c'est qu'on sait qu'il va nous quitter dans quelques mois, mais il a toujours un état d'esprit et un comportement exemplaire, et ça c'est chapeau, vraiment. Moi j'ai trouvé que c'était un match intense, avec deux systèmes qui s'affrontaient, on a subi parfois, et ce soir on voulait vraiment pas se faire contrer. Voilà. Ouais. Ça va être compliqué, mais je suis persuadé qu'on va être meilleur à Lorient que ce soir. On va être plus libéré, on va bien préparer ce match. C'est pas perdu, on peut encore revenir. J'ai ce sentiment-là.
Le Club Foot sur Tendance Ouest.
Pierre-Charles Binet, ça fait 2 semaines de suite que Le Havre s'impose. Ça fait 2 semaines de suite que Paul Le Guen explique qu'il a encore espoir pour le classement général et pour matérialiser cette potentielle 5e place du HAC. Est-ce qu'on y croit encore ou pas du tout ?
On peut être en droit d'y croire. Après,
Mais sous quel prétexte ?
On parle de coronavirus, donc faut faire attention avec le HAC qui reste un patient fragile. Il y a un manque de régularité depuis très longtemps. C'est une pathologie chronique. Je m'en remets au doc, mais ça reste une pathologie chronique pour le HAC depuis plusieurs saisons. Donc il faut faire attention. Mais voilà, s'ils arrivent à rester à hauteur, ils peuvent être dans le bon peloton sur le sprint final.
Est-ce que vous y croyez, vous, Cyril Capron ?
Oui,
ou est-ce que c'est de la com qui nous fait, Paul ?
Je ne pense pas. Je pense que le HAC a encore toutes ses chances. Alors, bien sûr, il faudra réaliser 10 derniers matchs tambour battant. Mais prenons l'exemple de Lorient. Il y a un mois, tout le monde voyait Lorient filer tranquillement, gentiment vers la Ligue 1. Les Lorientais, ils ont perdu 4 de leurs 5 derniers matchs. Après la réception du Havre, ils vont affronter Lens et Troyes. Il y aura beaucoup de confrontations directes d'ici la fin de la saison. Donc des équipes vont laisser des plumes, des équipes que l'on n'attend pas forcément à ce niveau-là. Je pense à Ajaccio et à Clermont. Comment vont-ils gérer la dernière ligne droite quand les matchs vont vraiment être sous pression, quand il y aura un enjeu extrêmement fort ? Vont-ils être capables de maintenir la même cadence ? Point d'interrogation, je me permets d'en douter quelque peu. Et puis c'est vrai...
Mais Cyril, je vous arrête quand même, il y a 6 et 7 points d'écart à combler en 10 journées.
Mais oui, mais je me répète, mais Lorient a perdu 4 de ses 5 derniers matchs. Qui dit que Lorient ne va pas...
Perdre, c'est plus facile que gagner quand même, non ?
De toute façon, 6 points, c'est l'équivalent effectivement de 2 victoires à rattraper sur 10 matchs. Ça me paraît pas rédhibitoire, sachant aussi que le HAC, sur les dernières saisons, nous a habitués à finir fort. Donc je dis pourquoi pas.
Pourquoi pas aussi, hein, Pierre-Charles Binet, vous êtes d'accord avec ça, vous ?
Ouais, pourquoi pas, ça peut le faire, mais il va falloir rester forcément concentré de la part des Havrais et puis gagner en régularité. Le retour de Kadewere peut être le facteur X, comme on l'annonce depuis très longtemps.
Et il y en aura d'autres dans le jeu des facteurs X, selon vous, Cyril Capron. Moi, il y a un truc qui me gratte quand même, c'est quand je vois qu'un joueur révélé par Paul Le Guen, en l'occurrence Loïc Badé, rentre tout de suite en conflit avec le club pour ne pas signer son premier contrat pro. Et tout de suite, ça met un mauvais petit truc dans cette fin de saison.
C'est sûr que la situation contractuelle de certains joueurs peut poser problème. Vous évoquez Loïc Badé.
Mais il y en a d'autres.
Il y en a d'autres. Il y a Pape Gueye également qui arrive en fin de contrat et qui va partir libre dans quelques mois. Bien sûr, mais je pense que c'est le lot maintenant de tous les clubs. Alors après, la question, est-ce que il aurait mieux pas valu préserver, laisser Loïc Badé tranquillement en réserve et ne pas l'exposer au projecteur de la Ligue 2? Bon, faut rappeler aussi que Samba Camara est parti et qu'aucun joueur n'est arrivé au mercato, donc il fallait également un joueur défensif axial pour compenser ce départ. Après, Loïc Badé, c'est malheureux quelque part. Maintenant, peut-être que on l'avait souvent évoqué la saison dernière avec le cas Harold Mukoudi.
J'allais revenir sur ce cas. Ça fait quand même... Tout à l'heure, on parlait avec Pierre-Charles de la continuation dans les saisons et dans les fins de saison du Havre. Bah, sur le plan contractuel, ça a l'air d'être un peu la même chose aussi, non ?
Il y a certainement des ressemblances. Alors, à chaque fois, il y a des ressemblances, mais chaque cas est quand même à prendre séparément. Effectivement, peut-être que tout, sûrement même que tout n'a pas été fait suffisamment bien en amont pour prolonger Loïc Badé et éviter qu'il se retrouve libre et qu'il parte sans rapporter le moindre copec au club. Ça, forcément, c'est une problématique, et c'est de plus en plus compliqué. Vous savez comment ça se passe, il y a les agents, il y a la famille, les joueurs qui sont très très vite exposés. Loïc Badé, il a fait 2, 3, 4 matchs en Ligue 2, et ça y est, tout le monde veut se l'arracher. C'est très compliqué aussi d'anticiper. Là, je veux pas me faire l'avocat du diable, mais c'est à l'échelle d'un club formateur pour le HAC, forcément que ce cas de figure, c'est, j'aurais envie de dire, quasi inévitable malgré tout.
Ouais, c'est inévitable pour les Havrais, effectivement. Autre chose inévitable, le huis clos. On en parle tout de suite.
Le Club Foot sur Tendance Ouest.
C'est officiel depuis le début de cette semaine, depuis hier, et la déclaration de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Interdiction d'avoir des rassemblements de plus de 1000 personnes dans les stades. On va en parler tout de suite en profondeur avec le doc Fred Pas. Mais avant cela, moi je veux rester sur le terrain avec vous les amis, l'espace de quelques secondes, Pierre-Charles Binet et Cyril Capron. On aura droit à Lorient, à huis clos. Valenciennes à huis clos, Nancy à huis clos et Sochaux à huis clos. Ça nous emmène jusqu'au fameux 15 avril, première date butoir fixée par la ministre des Sports. Pierre-Charles Binet, est-ce que ça change quelque chose, le huis clos, vraiment?
Alors déjà pour le Havre, je pense que c'est pas leur faire offense que de dire que Océane, c'est pas Bollaert. Je pense que Bollaert est un des stades les plus chauds en Ligue 2 aujourd'hui, et je pense qu'à Océane, on est loin du compte en termes d'ambiance. Ils vont à Lorient et Nancy, qui sont pas non plus des chaudrons, même si y a peut-être un peu plus d'engouement. Voilà, ça reste pas des ambiances de grande folie. Et puis le huis clos, c'est pour les deux équipes, quoi. Ceux d'en face aussi, ils vont pas avoir de supporters.
Cyril Capron, d'accord avec ça, ou est-ce au contraire pour vous ça va changer quelque chose?
Non, je suis entièrement d'accord. Vous me poseriez la question pour PSG Dortmund, est-ce que ça peut changer quelque chose?
Bah, répondez-y, puisque c'est pas encore passé. On va noter ça en magasin.
Oui,
allez-y.
Mais j'aurais envie de répondre à un oui catégorique. Et en plus, le PSG...
Moi, perso, je pense que ça peut changer quelque chose à Nancy et à Lorient. Pas forcément au Havre. Parce que Lorient et Nancy ont quand même leurs supporters. Là, on passe à zéro, quoi.
Oui, mais comme dit Pierre-Charles, c'est pareil pour les deux équipes. Je prenais l'exemple du PSG parce que le PSG est allé jouer à Dortmund dans un véritable chaudron avec des supporters qui ont galvanisé l'équipe allemande. Ça ne sera pas le cas au retour au Parc des Princes. Je pense que c'est un handicap pour la Ligue 2. Toutes les équipes vont être logées à la même enseigne. Elles vont jouer à huis clos, à domicile, à l'extérieur. Donc je trouve que l'équité, quelque part, est respectée. Petit bémol quand même dans ce qu'a dit Pierre-Charles. Effectivement, le stade Océane, ce n'est certes pas le chaudron de Bollaert, mais quand le COP donne de la voix, quand le COP n'est pas en conflit avec la direction et que le COP joue à plein son rôle de...
Ah, mais ça fait beaucoup de conditions.
Ouais, ça fait deux matchs par an, quoi.
Ça fait vraiment beaucoup de conditions.
Il y avait une belle ambiance contre Caen, Sylvain.
C'est ça, mais c'est exactement ce que je pensais.
Un derby, c'est normal.
C'est peut-être le contexte qui faisait ça, mais même contre Lens, alors effectivement...
Non, mais plus sérieusement, oui, effectivement, ça peut poser un problème à domicile. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je transposais un peu à Lorient et à Nancy, à eux, que ça pouvait poser problème.
Après, pour les matchs du HAC à domicile, quand je vois le nombre de points que le HAC a lâché à la maison, si le HAC en est là aujourd'hui, c'est parce que le HAC n'a pas été performant à la maison, avec ou sans les supporters. Donc le HAC a été battu par Orléans, par Châteauroux, a fait nul contre le Paris FC, contre Niort. Je pense que les points qui manquent, ils sont là. Donc après, le huis clos, c'est quand même compliqué de prédire à l'avance l'impact que ça aura.
En tout cas, ça va être extrêmement intéressant malgré tout et malgré ce huis clos de suivre justement l'évolution des équipes sans supporters ni d'un côté ni de l'autre. Et vous le savez, on vous l'offre aujourd'hui dans votre club hack. On file faire le vrai point avec notre doc sur Tendance Ouest. C'est Fred Pain qui est avec nous et qui va vous expliquer les conduites à tenir et surtout ce qu'il pressent pour l'avenir avec ce fameux, maintenant disons-le, coronavirus.
Le club foot sur Tendance Ouest.
Bonjour doc.
Bonjour Sylvain.
Ça va bien?
Très bien.
Bon, vous n'avez pas le coronavirus, vous?
Non.
Non, ça va? Ça s'est bien passé jusqu'à maintenant pour vous?
Bon. Eh ben, faut espérer que ça va continuer comme ça.
Faut espérer que ça va continuer. Alors, on ne va pas vous le cacher, on a plein de questions à vous poser sur... depuis cet arrêté pris par le ministère de la Santé, Olivier Véran, le ministre de la Santé, puis ensuite, j'ai envie de dire, mis au goût du jour et du sport par le ministre des Sports, Roxana Maracineanu, on le sait, depuis le lundi 10 mars, les manifestations de plus de 1000 spectateurs, acteurs compris, sont interdites, les rassemblements qui vont avec aussi. Première question, est-ce que ces mesures, et c'est une question que beaucoup se posent aujourd'hui, sont selon vous, professionnels de la santé, médecins généralistes, des mesures qui sont légitimes?
Moi, tout à fait. Je pense tout à fait, parce qu'en fait, le ministre l'a bien expliqué, mais il y a plusieurs épidémiologistes qui l'ont expliqué auparavant, c'est que l'épidémie, elle est inévitable, le virus va se répandre. Le vrai souci, il n'est pas tellement au niveau individuel. On sait effectivement que ça atteint les personnes fragiles, que ça atteint les personnes âgées. Donc, il faut effectivement limiter au maximum la contamination pour éviter le maximum de problèmes. Le problème risque de se situer à l'échelon collectif. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de malades, énormément de formes bénignes, c'est-à-dire les gens vont avoir un petit syndrome grippal et puis ça va se passer très très bien. Et mais on sait qu'il va y avoir un certain nombre de pourcentages de formes graves, 10 à 15%, qui vont nécessiter une hospitalisation. Donc si on a peu de malades, si mettons qu'on est 10 000 malades en France, 10%, ça fait 1 000 hospitalisations, on gère. Si on a 1 million de malades, 10%, ça fait 100 000 hospitalisations. Ça va être beaucoup plus compliqué à gérer. Donc, l'idée, c'est de freiner au maximum l'épidémie pour qu'on ait le moins de malades possible et pour qu'on ait le moins d'hospitalisations, pour qu'on puisse gérer. Le danger, il est essentiellement pour le système de santé, pour qu'on puisse prendre en charge tout le monde. C'est pour ça qu'ils veulent retarder au maximum l'épidémie, lisser dans le temps, parce que même si on a beaucoup de malades, il ne faut pas qu'ils arrivent tous en même temps. Donc, moi, je pense que toutes les mesures qui sont prises pour limiter la contagion sont bonnes.
Pierre-Charles, question.
Mais alors, est-ce qu'il y a, on va dire, est-ce que faire 1000 personnes dans un stade, c'est mieux qu'une dizaine de mille comme on peut avoir en Ligue 2 au Havre ou à Caen, ou même peut-être 20 ou 30 000, voire 40 sur des stades de Ligue 1? Pourquoi, au final, ne pas mettre un huis clos complet d'office?
D'où vient ce 1000?
Est-ce que ça change
vous,
quelque chose ou pas, ces 1000 personnes?
Moi, je pense que ça change pas grand-chose. De toute façon, les stades, je crois que le problème, il est réglé, c'est huis clos.
Ou 1000 personnes.
Ou 1000 personnes. Alors, 1000 personnes, ça peut se défendre. Parce qu'en fait, le virus, il saute pas non plus à la figure comme ça. On sait qu'en Italie, enfin voilà, il faut une distance. Si on reste à 1 mètre, 1,50 mètre et qu'on prend les mesures habituelles, bien se laver les mains, pas s'embrasser, on sait qu'on va pas être contaminé. Ça protège la distance. Donc, 1000 personnes dans un stade de 20 000, on peut largement espacer les personnes. Après, c'est une organisation un peu particulière, c'est un peu curieux. Mais ça peut se tenir de ce fait-là, quoi. Bon, après, je pense que le mieux, c'est quand même de chacun faire un effort et de limiter au maximum les contacts.
Justement, on pense à tous ces sportifs. Alors là, on va élargir un peu plus. Allez voir ce qui se passe au basket, au handball, dans différents sports qui sont soit en salle, soit à l'extérieur. Comment on fait au niveau régionaux ou au niveau fédéraux pour se prémunir? Parce que là, il n'y a pas foncièrement, et c'est rare même, 1000 spectateurs dans une manifestation ou dans un match de handball ou de basket.
Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de décision de prise, effectivement. Tout le monde s'en tient aux consignes officielles qui varient tous les jours, hein, que ce soit en France ou en Italie.
Est-ce qu'elles vont encore varier, selon vous?
C'est probable. Peut-être pas à l'échelon national, mais localement, déjà, les consignes ne sont pas les mêmes dans l'Oise, par exemple. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits dans l'Oise parce qu'il y a des foyers. Donc, en fait, c'est adapté en fonction de la situation de chaque région. Donc, dans l'Oise, je pense qu'ils n'ont pas les mêmes problématiques qu'en Normandie, par exemple, aujourd'hui.
Aujourd'hui, est-ce que, selon vous, on en fait trop autour de cette épidémie?
C'est difficile à savoir. C'est un virus qu'on ne connaît pas. On a 2 mois de recul. Il y a des bonnes nouvelles qui viennent de Chine. C'est-à-dire qu'ils sont en train de fermer tous les hôpitaux. Les contaminations cessent. On dit ça fait 2 mois, c'est très bien. En Chine, il faut quand même mettre un bémol. C'est qu'il y a eu un confinement extrêmement sévère qui n'arrivera pas en France et qui, de toute façon, s'il était imposé en France, ne serait pas respecté.
C'est aussi pour ça qu'on voit par exemple que le métro, pour le coup, à Paris n'est pas fermé, que des gros centres type Disney sont pas encore fermés, par exemple.
Disney, je comprends pas pourquoi. Le métro, ça s'explique parce que le métro, effectivement, ça va paralyser toute l'activité économique, ça met tout le pays à l'arrêt. Et pour ne parler que d'une seule chose, à Paris, si vous supprimez le métro, supprimez les transports, la plupart des soignants ne pourront pas se rendre à leur travail. Et ils vont être indispensables.
Et ça vaut pour les villes aussi, ça, ce que vous êtes en train de dire, les villes de Rouen, de Caen,
oui,
de Havre,
le tram,
ça vaut
le
pour
bus,
toutes les
villes. Ouais.
Quel avenir vous donnez à cette situation? Aujourd'hui, on est dans des huis clos quasi totaux pour le sport. Est-ce que ça va aller au-delà du 15 avril? Est-ce qu'il faut déjà se préparer, pour être clair, à ce que ce soit pas stoppé le 15 avril?
Ouais, faut être assez optimiste. Là, quand même, les mesures, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis le départ. C'est quand même bien martelé toutes les mesures qu'il faut prendre. Si chacun les respecte, les contraintes sont pas importantes pour chacun d'entre nous, hein, si on regarde bien. Si on respecte ça, on peut quand même espérer qu'on limite la contagion et que l'épidémie ait la même cinétique qu'en Chine, que finalement, dans 2 mois, ça se tasse. Bon, 15 avril, on sera peut-être un peu juste, mais on peut penser que fin avril, on va être dans la même situation qu'en Chine, à savoir sur un déclin, donc pourquoi pas. Après, c'est vrai que ce qu'on dit aujourd'hui, ce sera peut-être complètement battu en brèche par ce qui va se passer demain, après-demain.
Le fameux stade 3, on en vient à ça, on en entend beaucoup parler, tout le monde en parle, et pas grand monde sait véritablement ce que c'est, vous le savez?
Le stade 3, clairement, c'est quand on est en phase d'épidémie, et alors pour écouter un peu tout ce qui est infectiologue, épidémiologue, virologue, et médecins, clairement, depuis quelques jours, tous les médecins s'accordent à dire qu'on est déjà en phase 3. Donc d'un point de vue strictement médical, je pense qu'on y est déjà. Politiquement, on semble n'être qu'en phase 2.
Ce passage en phase 3, il va être nécessaire selon vous au niveau de la santé publique à un moment ou à un autre ?
Ouais, je pense que finalement, c'est pas tellement phase 2, phase 3. C'est qu'en fait, au fur et à mesure, ils vont adapter des mesures qui vont être plus ou moins contraignantes. Et qu'en fait, peu importe... Je pense pas que ça change grand-chose. En fait, c'est plus les mesures qui vont s'imposer les unes à la suite des autres.
Des mesures qui, évidemment, impactent les organisations. Vous le savez tous maintenant, les différentes organisations sont extrêmement barriérées aujourd'hui. Vous l'avez su il y a quelques instants avec Docpin, justement. Et on va continuer avec vous, cher docteur, que c'est parti pour durer. Pierre-Charles, une autre question peut-être sur un autre domaine.
C'est pas forcément du médical. Mais là, moi, je souhaite surtout bon courage. Au HAC et au stade Malherbe aussi, parce que là on leur dit vous avez le droit d'accueillir 1000 personnes dans le stade, donc à Caen il y a eu 7000 abonnés je crois, c'est ça, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un tirage au sort, on ferme les loges, on garde que les populaires, on se grille avec les partenaires, comment on fait?
On ferme d'où?
Moi je pense que c'est déjà compliqué la situation pour les clubs. Le mieux ça serait de tout fermer, parce que de toute façon on va se créer un problème. Hein, en accueillant 1000 personnes sur les 7000, 8000, ça va créer des contestations forcément. Et puis, à la limite, à un moment, je crois qu'il faut voir quelle est la priorité. À un moment, si on dit on veut limiter l'épidémie, on a déjà des mesures très contraignantes, on y va, on y est. On n'est plus à 1000 personnes. Le problème,
plus de contraintes encore. Est-ce que c'est possible selon vous?
À écouter tout le monde, c'est impossible. Mais en Italie, il y a 5 jours, c'était impossible. Là, ils sont tous confinés. Alors, est-ce que ça va être respecté? J'en sais rien. En théorie, tout est possible. C'est vrai qu'en pratique...
Allez-vous sur le terrain, vous sentez bien comment ça se passe, non?
Eh ben, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'on n'est pas du tout prêt à avoir des mesures plus contraignantes. Juste un sondage qui est sorti, et moi, je ne suis pas du tout surpris du résultat de ce sondage qui a été fait hier. Ne pas se serrer la main, qui est quand même un truc très utile. Il y a un sondage qui est sorti, il y a 85% des gens qui continuent à se serrer la main. C'est pas une mesure... Quand on réfléchit, c'est une mesure... extrêmement peu contraignante. C'est pas très agréable, mais c'est extrêmement peu contraignant individuellement. 85% ne la respecte pas.
Donc faut faire comme le doc, faut faire coucou quand on arrive là.
Voilà, c'est ce qu'il a fait coucou. Merci, Doc Fredpin, d'être venu avec nous et d'avoir évidemment sensibilisé et expliqué toute la tournure de ces événements santé qui impactent évidemment le sport. On va le retrouver, bien sûr, dans les prochaines semaines. Alors, vous l'avez vu, ce sera du huis clos, ce sera pour Le Havre, pour commencer, vous le savez maintenant, et ce sera du côté de Lorient, lundi soir prochain à 20h45 pour les ciels et marines de Paul Le Guen à la quête d'un nouveau succès, espérons-le, emmené par Tino Kadewere et tous les autres. Passez une bonne semaine malgré tout et on se retrouve la semaine prochaine sur l'antenne de Tendance Ouest. Salut.
Podcast by Tendance Ouest.